Consuelo, livre 3, chapitre 96. Dans la journée, Consuelo vit de ses fenêtres une troupe fort étrange défiler vers la place. C'étaient des hommes trapus, robustes et hâlés, avec de longues moustaches, les jambes nues chaussées de courroies entrecroisées comme des cothurnes antiques, la tête couverte de bonnets pointus, la ceinture garnie de 4 pistolets, les bras, le cou découverts, la main armée d'une longue carabine albanaise, et le tout rehaussé d'un grand manteau rouge. « Est-ce une mascarade ?» demanda Consuelo au chanoine qui était venu lui rendre visite. « Nous ne sommes point en carnaval, que je sache. »«
Regardez bien ces hommes-là, » lui répondit le chanoine, « car nous ne les reverrons pas de longtemps, s'il plaît à Dieu de maintenir le règne de Marie-Thérèse. Voyez comme le peuple les examine avec curiosité, quoique avec une sorte de dégoût et de frayeur. Vienne les a vus accourir dans ces jours d'angoisse et de détresse. Et alors elle les a accueillis plus joyeusement qu'elle ne le fait aujourd'hui, honteuse et consternée qu'elle est de leur devoir son salut.
Sont-ce là ces brigands esclavons dont on m'a tant parlé en Bohême et qui ont fait tant de mal ? Reprit Consuelo.
Oui, ce sont eux, répliqua le chanoine. Ce sont les débris de ces hordes de cerfs et de bandits croates que le fameux baron François de Trinque, cousin germain de votre ami le baron Frédéric de Trinque, avait affranchi ou asservi avec une hardiesse et une habileté incroyables pour en faire presque des troupes régulières au service de Marie-Thérèse. Tenez, le voilà, ce héros effroyable, ce Trinque à la gueule brûlée, comme l'appellent nos soldats. Ce partisan fameux, le plus rusé, le plus intrépide, le plus nécessaire des tristes et belliqueuses années qui viennent de s'écouler. Le plus grand hâbleur et le plus grand pillard de son siècle, à coup sûr. Mais aussi l'homme le plus brave, le plus robuste, le plus actif, le plus fabuleusement téméraire des temps modernes. C'est lui. C'est Trinque le Padour, avec ses loups affamés, meute sanguinaire dont il est le sauvage pasteur. François de Trinque était plus grand encore que son cousin de Prusse. Il avait près de 6 pieds. Son manteau écarlate, attaché à son cou par une agrafe de rubis, s'entr'ouvrait sur sa poitrine pour laisser voir tout un musée d'artillerie turque, chamarré de pierreries, dont sa ceinture était l'arsenal. Pistolets, sabres recourbés, écoutelas, rien ne manquait pour lui donner l'apparence du plus expéditif et du plus déterminé tueur d'hommes. En guise d'aigrette, il portait à son bonnet le simulacre d'une petite faux à 4 lames tranchantes retombant sur son front. Son aspect était horrible. L'explosion d'un baril de poudre, en le défigurant, avait achevé de lui donner l'air diabolique. On ne pouvait le regarder sans frémir, disent tous les mémoires du temps.
C'est donc là ce monstre, cet ennemi de l'humanité, dit Consuelo en détournant les yeux avec horreur. La Bohême se rappellera longtemps son passage, les villes brûlées, saccagées, les vieillards et les enfants mis en pièces, les femmes outragées, les campagnes épuisées de contributions, les moissons dévastées, les troupeaux détruits quand on ne pouvait les enlever, partout la ruine, la désolation, le meurtre et l'incendie. Pauvre Bohème, rendez-vous éternel de toutes les luttes, théâtre de toutes les tragédies. Oui, pauvre Bohème, victime de toutes les fureurs, arène de tous les combats, reprit le chanoine. François de Trinque y a renouvelé les farouches excès du temps de Jean Ziska. Comme lui invaincu, il n'a jamais fait quartier. Et la terreur de son nom était si grande que ses avant-gardes ont enlevé des villes d'assaut lorsqu'il était encore à 4 000 de distance, aux prises avec d'autres ennemis. C'est de lui qu'on peut dire, comme d'Attila, que l'herbe ne repousse jamais là où son cheval a passé. C'est lui que les vaincus maudiront jusqu'à la 4e génération. François de Trinque se perdit dans l'éloignement. Mais pendant longtemps,
Consuelo et le chanoine virent défiler ces magnifiques chevaux richement caparaçonnés que ces gigantesques hussards croates conduisaient en main.
« Ce que vous voyez n'est qu'un faible échantillon de ces richesses, » dit le chanoine.
« Des mulets et des chariots chargés d'armes, de tableaux, de pierreries, de lingots d'or et d'argent couvrent incessamment les routes qui conduisent à ces terres d'esclavonie. C'est là qu'il enfouit des trésors qui pourraient fournir la rançon de 3 rois. Il mange dans la vaisselle d'or qu'il a enlevée au roi de Prusse, à Sorau, alors qu'il a failli enlever le roi de Prusse lui-même. Les uns disent qu'il l'a manqué d'un quart d'heure. Les autres prétendent qu'il l'a tenu prisonnier dans ses mains et qu'il lui a chèrement vendu sa liberté.
Patience, Tranque le Pandour ne jouira peut-être pas longtemps de tant de gloire et de richesse. On dit qu'un procès criminel le menace, que les plus épouvantables accusations pèsent sur sa tête, que l'impératrice en a grand peur. Enfin que ceux de ces Croates qui n'ont pas pris, selon leur coutume, leur congé sous leur bonnet, vont être incorporés dans les troupes régulières et tenus en bride à la manière prussienne. Quant à lui, j'ai mauvaise idée des compliments et des récompenses qui l'attendent à la cour.
Ils ont sauvé la couronne d'Autriche, à ce qu'on dit.
Cela est certain. Depuis les frontières de la Turquie jusqu'à celles de la France, ils ont semé l'épouvante et emporté les places les mieux défendues, les batailles les plus désespérées. Toujours les premiers à l'attaque d'un front d'armée, à la tête d'un pont, à la brèche d'un fort, ils ont forcé nos plus grands généraux à l'admiration et nos ennemis à la fuite. Les Français ont partout reculé devant eux. Et le grand Frédéric a pâli, dit-on, comme un simple mortel à leur cri de guerre. Il n'est point de fleuve rapide, de forêts inextricables, de marais vaseux, de roches escarpées, de grêles de balles et de torrents de flammes qu'il n'ait franchi à toutes les heures de la nuit et dans les plus rigoureuses saisons. Oui, certes, ils ont sauvé la couronne de Marie-Thérèse, plus que la vieille tactique militaire de tous nos généraux et toutes les ruses de nos diplomates.
En ce cas, leurs crimes seront impunis et leurs vols sanctifiés.
Peut-être qu'ils seront trop punis, au contraire.
On ne se défait pas de gens qui ont rendu de pareils services.
Pardon, dit le chanoine malignement, quand on n'a plus besoin d'eux.
Mais ne leur a-t-on pas permis tous les excès qu'ils ont commis sur les terres de l'Empire et sur celles des Alliés?
Sans doute, on leur a tout permis, puisqu'ils étaient nécessaires.
Et maintenant?
Et maintenant qu'ils ne le sont plus, on leur reproche tout ce qu'on leur avait permis.
Et la grande âme de Marie-Thérèse?
Ils ont profané des églises.
J'entends. Tranque est perdu, monsieur le chanoine.
Chut, cela se dit tout bas, reprit-il.
As-tu vu les Pandours? S'écria Joseph en entrant tout essoufflé.
Avec peu de plaisir, répondit Consuelo.
Eh bien, ne les as-tu pas reconnus?
C'est la première fois que je les vois.
Non, pas Consuelo, ce n'est pas la première fois que ces figures-là frappent tes regards. Nous en avons rencontré dans le Bomerwald.
Grâce à Dieu, aucun à ma souvenance.
Tu as donc oublié un chalet où nous avons passé la nuit sur la fougère et où nous nous sommes aperçus tout d'un coup que 10 ou 12 hommes dormaient là autour de nous?
Consuelo se rappela l'aventure du chalet et la rencontre de ces farouches personnages qu'elle avait pris, ainsi que Joseph, pour des contrebandiers. D'autres émotions qu'elle n'avait ni partagées ni devinées gravaient dans la mémoire de Joseph toutes les circonstances de cette nuit orageuse.
« Eh bien, lui dit-il, ces prétendus contrebandiers qui ne s'aperçurent pas de notre présence à côté d'eux et qui sortirent du chalet avant le jour, portant des sacs et de lourds paquets. C'étaient des Pandours. C'étaient les armes, les figures, les moustaches et les manteaux que je viens de voir passer. Et la Providence nous avait soustraits, à notre insu, à la plus funeste rencontre que nous puissions faire en voyage.
Sans aucun doute, dit le chanoine,
à qui tous les détails de ce voyage avaient été souvent racontés par Joseph.
Ces honnêtes gens s'étaient licenciés de leur propre gré, comme c'est leur coutume quand ils ont les poches pleines, et ils gagnaient la frontière pour revenir dans leur pays par un long circuit, plutôt que de passer avec leur butin sur les terres de l'Empire, où ils craignent toujours d'avoir à rendre des comptes. Mais soyez sûrs qu'ils n'y seront pas arrivés sans encombre. Ils se volent et s'assassinent les uns les autres tout le long du chemin. Et c'est le plus fort qui regagne ses forêts et ses cavernes, chargé de la part de ses compagnons.
L'heure de la représentation vint distraire Consuelo du sombre souvenir des pandours de Trinque, et elle se rendit au théâtre. Elle n'y avait point de loge pour s'habiller. Jusque-là, Madame Thésie lui avait prêté la sienne. Mais cette fois, Madame Thésie, fort courroucée de ses succès, et déjà son ennemie jurée, avait emporté la clé, et la prima donna de la soirée se trouva fort embarrassée de savoir où se réfugier. Ces petites perfidies sont usitées au théâtre. Elles irritent et inquiètent la rivale dont on veut paralyser les moyens. Elle perd du temps à demander une loge, elle craint de n'en point trouver. L'heure s'avance, ses camarades lui disent en passant « Eh quoi, pas encore habillée, on va commencer !» Enfin, après bien des demandes et bien des pas, à force de colère et de menaces, elle réussit à se faire ouvrir une loge où elle ne trouve rien de ce qui lui est nécessaire. Pour peu que les tailleuses soient gagnées, le costume n'est pas prêt ou va mal. Les habilleuses sont aux ordres de tout autre que la victime dévouée à ce petit supplice. La cloche sonne, l'avertisseur, le buffafuori, crie de sa voix glapissante dans les corridors. « Signore et signori, si va cominciar !» Mot terrible que la débutante n'entend pas sans un froid mortel. Elle n'est pas prête. Elle se hâte, elle brise ses lacets, elle déchire ses manches, elle met son manteau de travers, et son diadème va tomber au premier pas qu'elle fera sur la scène. Palpitante, indignée, nerveuse, les yeux pleins de larmes, il faut paraître avec un sourire céleste sur le visage. Il faut déployer une voix pure, fraîche et sûre d'elle-même, lorsque la gorge est serrée et le cœur prêt à se briser. Oh, toutes ces couronnes de fleurs qui pleuvent sur la scène au moment du triomphe ont, en dessous, des milliers d'épines. Heureusement, pour Consuelo, elle rencontra la Corilla, qui lui dit en lui prenant la main « Viens dans ma loge, la Thésie s'est flattée de te jouer le même tour qu'elle me jouait dans les commencements. Mais je viendrai à ton secours, ne fût-ce que pour la faire enrager. C'est ta charge de revanche, au moins. Au train dont tu y vas, Porporina, je risque bien de te voir passer avant moi, partout où j'aurai le malheur de te rencontrer. Tu oublieras sans doute alors la manière dont je me suis conduit ici avec toi. Tu ne te rappelleras que le mal que je t'ai fait. »
« Le mal que vous m'avez fait, Corilla ?»
dit Consuelo en entrant dans la loge de sa rivale et en commençant sa toilette derrière un paravent, tandis que les habilleuses allemandes partageaient leurs soins entre les deux cantatrices, qui pouvaient s'entretenir en vénitien sans être entendues. « Vraiment, je ne sais quel mal vous m'avez fait, je ne m'en souviens plus. »
La preuve que tu me gardes rancune, c'est que tu me dis « vous », comme si tu étais une duchesse et comme si tu me méprisais.
« Eh bien, je ne me souviens pas que tu m'aies fait du mal, » reprit Consuelo, surmontant la répugnance qu'elle éprouvait à traiter familièrement une femme à qui elle ressemblait si peu.
« Est-ce vrai ce que tu dis là ?» repartit l'autre. « As-tu oublié à ce point le pauvre Zotto ?»
J'étais libre et maîtresse de l'oublier. Je l'ai fait, reprit Consuelo en attachant son cothurne de reine avec ce courage et cette liberté d'esprit que donne l'entrain du métier à certains moments. Et elle fit une brillante roulade pour ne pas oublier de se tenir en voie. La Corilla riposta par une autre roulade pour faire de même, puis elle s'interrompit pour dire à sa soubrette
« Hé, par le sang du diable, mademoiselle, vous me serrez trop. Croyez-vous habiller une poupée de Nuremberg? Ces Allemandes, » reprit-elle en dialecte,
« elles ne savent pas ce que c'est que des épaules. Elles nous rendraient carrés comme leurs douairières si on se laissait faire. Porporina, ne te laisse pas empaqueter jusqu'aux oreilles comme la dernière fois. C'était absurde. »
Ah, pour cela, ma chère, c'est la consigne impériale. Ces dames le savent, et je ne tiens pas à me révolter pour si peu de choses. »
Peu de choses? Nos épaules, peu de choses?
Je ne dis pas cela pour toi, qui as les plus belles formes de l'univers, mais moi...
Hypocrite, dit Corilla en soupirant.
Tu as 10 ans de moins que moi, et mes épaules ne se soutiendront bientôt plus que par leur réputation.
C'est toi qui es hypocrite, reprit Consuelo, horriblement ennuyée de ce genre de conversation.
Et pour l'interrompre, elle se mit, tout en se coiffant, à faire des gammes et des traits.
« Tais-toi !» lui dit tout à coup Corilla, qui l'écoutait malgré elle. « Tu m'enfonces 1000 poignards dans le gosier. Ah, je te céderai de bon cœur tous mes amants. Je serai bien sûr d'en trouver d'autres. Mais ta voix et ta méthode, jamais je ne pourrai te les disputer. Tais-toi, car j'ai envie de t'étrangler. »
Consuelo, qui vit bien que la Corilla ne plaisantait qu'à demi, et que ses flatteries railleuses cachaient une souffrance réelle, se le tint pour dit. Mais au bout d'un instant, celle-ci reprit.
« Comment fais-tu ce trait-là »«
Veux-tu le faire? Je te le cède, » répondit Consuelo en riant avec sa bonhomie admirable. « Tiens, je vais te l'apprendre. Mets-le dès ce soir dans quelque endroit de ton rôle. Moi, j'en trouverai un autre. »
« S'en sera un autre encore plus fort, je n'y gagnerai rien. »«
Eh bien, je ne le ferai pas du tout. Aussi bien le Porpora ne se soucie pas de ces choses-là, et ce sera un reproche de moins qu'il me fera ce soir. Tiens, voilà mon trait. »
Et tirant de sa poche une ligne de musique écrite sur un petit bout de papier plié, elle le passa par-dessus le paravent à Corilla, qui se mit à l'étudier aussitôt. Consuelo l'aida, le lui chanta plusieurs fois et finit par le lui apprendre. Les toilettes allaient toujours leur train. Mais avant que Consuelo eût passé sa robe, la Corilla écarta impétueusement le paravent et vint l'embrasser pour la remercier du sacrifice de son trait. Ce n'était pas un mouvement de reconnaissance bien sincère qui la poussait à cette démonstration. Il s'y mêlait un perfide désir de voir la taille de sa rivale encorsée, afin de pouvoir trahir le secret de quelque imperfection. Mais Consuelo n'avait pas de corset. Sa ceinture, déliée comme un roseau, et ses formes chastes et nobles, n'empruntaient pas les secours de l'art. Elle pénétra l'intention de Corilla et sourit.
« Tu peux examiner ma personne et pénétrer mon cœur, » pensa-t-elle. Tu n'y trouveras rien de faux.
Zingarella, lui dit la Corilla en reprenant malgré elle son air hostile et sa voix âpre. Tu n'aimes donc plus du tout Andoletto?
Plus du tout, répondit Consuelo en riant.
Et lui, il t'a beaucoup aimé?
Pas du tout, reprit Consuelo avec la même assurance et le même détachement bien senti et bien sincère.
« C'est bien ce qu'il me disait !» s'écria la Corilla en attachant sur elle ses yeux bleus, clairs et ardents, espérant surprendre un regret et réveiller une blessure dans le passé de sa rivale.
Consuelo ne se piquait pas de finesse, mais elle avait celle des âmes franches, si fortes quand elle lutte contre des desseins astucieux. Elle sentit le coup et y résista tranquillement. Elle n'aimait plus Antoletto. Elle ne connaissait pas la souffrance de l'amour-propre. Elle laissa donc ce triomphe à la vanité de Corilla.
« Il te disait la vérité, » reprit-elle. « Il ne m'aimait pas. »«
Mais toi, tu ne l'as donc jamais aimé ?» dit l'autre, plus étonnée que satisfaite de cette concession. Consuelo sentit qu'elle ne devait pas être franche à demi. Corilla voulait l'emporter, il fallait la satisfaire.
« Moi ?» répondit-elle. « Je l'ai beaucoup aimé. »
« Et tu l'avoues ainsi. Tu n'as donc pas de fierté, pauvre fille. »
« J'en ai eu assez pour me guérir. »
« C'est-à-dire que tu as eu assez de philosophie pour te consoler avec un autre. Dis-moi, avec qui, Porporina? Ce ne peut être avec ce petit Hind qui n'a ni sou ni maille. »
« Ce ne serait pas une raison, mais je ne me suis consolée avec personne de la manière dont tu l'entends. » Ah, je sais, j'oubliais que tu as la prétention. Ne dis donc pas de ces choses-là ici, ma chère, tu te feras tourner en ridicule.
Aussi, je ne les dirai pas sans qu'on m'interroge, et je ne me laisserai pas interroger par tout le monde. C'est une liberté que je te laissais prendre, Corilla. C'est à toi de n'en pas abuser, si tu n'es pas mon ennemi.
Vous êtes une masque, s'écria la Corilla. Vous avez de l'esprit, quoique vous fassiez l'ingénu. Vous en avez tant que je ne suis sur le point de vous croire aussi pur que je l'étais à 12 ans. Pourtant cela est impossible. Ah, que tu es habile, Zingarel. Tu feras croire aux hommes tout ce que tu voudras.
Je ne leur ferai rien croire du tout, car je ne leur permettrai pas de s'intéresser assez à mes affaires pour m'interroger.
Ce sera le plus sage. Ils abusent toujours de nos confessions, et ne les ont pas plus tôt arrachées qu'ils nous humilient de leurs reproches. Je vois que tu sais ton affaire. Tu feras bien de ne pas vouloir inspirer de passion. Comme cela, tu n'auras pas d'embarras, pas d'orage. Tu agiras librement sans tromper personne. À visage découvert, on trouve plus d'amants et on fait plus vite fortune. Mais il faut pour cela plus de courage que je n'en ai. Il faut que personne ne te plaise et que tu ne te soucies d'être aimé de personne, car on ne goûte ces dangereuses douceurs de l'amour qu'à force de précautions et de mensonges. Je t'admire, Zingarella.
Oui, je me sens frappée de respect en te voyant, si jeune, triomphée de l'amour. Car la chose la plus funeste à notre repos, à notre voix, à la durée de notre beauté, à notre fortune, à nos succès, c'est bien l'amour, n'est-ce pas ?
Oh oui, je le sais par expérience. Si j'avais pu m'en tenir toujours à la froide galanterie, je n'aurais pas tant souffert. Je n'aurais pas perdu 2000 sequins et 2 notes dans le haut. Mais vois-tu, je m'humilie devant toi. Je suis une pauvre créature. Je suis née malheureuse. Toujours au milieu de mes plus belles affaires, j'ai fait quelque sottise qui a tout gâté. Je me suis laissé prendre à quelque folle passion pour quelque pauvre diable, et adieu la fortune. J'aurais pu épouser Giustiniani dans un temps. Oui, je l'aurais pu. Il m'adorait, et je ne pouvais pas le souffrir. J'étais maîtresse de son sort. Ce misérable Anzoletto m'a plu. J'ai perdu ma position. Allons, tu me donneras des conseils. Tu seras mon ami, n'est-ce pas? Tu me préserveras des faiblesses de cœur et des coups de tête. Et pour commencer, il faut que je t'avoue que j'ai une inclination depuis 8 jours pour un homme dont la faveur baisse singulièrement et qui, avant peu, pourra être plus dangereux qu'utile à la cour. Un homme qui est riche à millions, mais qui pourrait bien se trouver ruiné dans un tour de main. Oui, je veux m'en détacher avant qu'il m'entraîne dans son précipice. Allons, le diable veut me démentir, car le voici qui vient, je l'entends, et je sens le feu de la jalousie me monter au visage. Ferme bien ton paravent, Porporina, et ne bouge pas, je ne veux pas qu'il te voie.
Consuelo se hâta de tirer avec soin le paravent. Elle n'avait pas besoin de l'avis pour désirer de n'être pas examinée par les amants de la Corille. Une voix d'homme, assez vibrante et juste, quoique privée de fraîcheur, fredonnait dans les corridors. On frappa pour la forme et on entra sans attendre la réponse.
« Horrible métier !» pensa Consuelo.
« Non, je ne me laisserai pas séduire par les enivrements de la scène. L'intérieur de la coulisse est trop immonde. » Et elle se cacha dans son coin, humiliée de se trouver en pareille compagnie, indignée et consternée de la manière dont la Corilla l'avait comprise, et plongeant pour la première fois dans cet abîme de corruption dont elle n'avait pas encore eu l'idée. Chapitre 97. En achevant sa toilette à la hâte, dans la crainte d'une surprise, elle entendit le dialogue suivant en italien.
« Que venez-vous faire ici? Je vous ai défendu d'entrer dans ma loge. L'impératrice nous a interdit, sous les peines les plus sévères, d'y recevoir d'autres hommes que nos camarades. Et encore faut-il qu'il y ait nécessité urgente pour les affaires du théâtre. Voyez à quoi vous m'exposez. Je ne conçois pas qu'on fasse si mal la police des loges. » Il n'y a pas de police pour les gens qui paient bien, ma toute belle. Il n'y a que les pleutres qui rencontrent la résistance ou la délation sur leur chemin. Allons, recevez-moi un peu mieux, ou par le corps du diable, je ne reviendrai plus.
C'est le plus grand plaisir que vous puissiez me faire. Partez donc. Eh bien, vous ne partez pas?
Tu as l'air de le désirer de si bonne foi que je reste pour te faire enrager.
Je vous avertis que je vais mander ici le régisseur afin qu'il me débarrasse de vous.
Qu'il vienne s'il est là de vivre. J'y consens.
Mais êtes-vous insensé? Je vous dis que vous me compromettez, que vous me faites manquer au règlement récemment introduit par ordre de Sa Majesté, que vous m'exposez à une forte amende, à un renvoi peut-être.
L'amende, je me charge de la payer à ton directeur en coup de canne. Quant à ton renvoi, je ne demande pas mieux. Je t'emmène dans mes terres, où nous mènerons joyeuse vie.
Moi, suivre un brutal tel que vous? Jamais. Allons, sortons ensemble d'ici, puisque vous vous obstinez à ne pas m'y laisser seule.
Seule? Seule, ma charmante, c'est ce dont je m'assurerai avant de vous quitter. Voilà un paravent qui tient bien de la place dans cette petite chambre. Et il me semble que si je le repoussais contre la muraille d'un bon coup de pied, je vous rendrais service.
Arrêtez, monsieur, arrêtez! C'est une dame qui s'habille là. Voulez-vous tuer ou blesser une femme, brigand que vous êtes?
Une femme? Ah, c'est bien différent. Mais je veux voir si elle n'a pas une épée au côté.
Le paravent commença à s'agiter. Consuelo, qui était habillée entièrement, jeta son manteau sur ses épaules, et tandis qu'on ouvrait la première feuille du paravent, elle essaya de pousser la dernière, afin de s'esquiver par la porte, qui n'en était qu'à deux pas. Mais la corilla, qui vit son mouvement, l'arrêta en lui disant « Reste là, Porporina. S'il ne t'y trouvait pas, il serait capable de croire que c'est un homme qui s'enfuit et il me tuerait. »
Consuelo, effrayée, prit le parti de se montrer. Mais la corilla, qui s'était cramponnée auparavant, entre elle et son amant, l'en empêcha encore. Peut-être espérait-elle qu'en excitant sa jalousie, elle allumerait en lui assez de passion pour qu'il ne prît pas garde à la grâce touchante de sa rivale.
« Si c'est une dame qui est là, » dit-il en riant, « qu'elle me réponde. Madame, êtes-vous habillée? Peut-on vous présenter ses hommages ?»«
Monsieur, » répondit Consuelo sur un signe de la corilla, « veuillez garder vos hommages pour une autre et me dispenser de les recevoir. Je ne suis pas visible. »«
C'est-à-dire que c'est le bon moment pour vous regarder, » dit l'amant de corilla en faisant mine de pousser le paravent.
« Prenez garde à ce que vous allez faire !» dit Corilla avec un rire forcé. « Si au lieu d'une bergère en déshabillé, vous alliez trouver une duègne respectable !»«
Diable, mais non! Sa voix est trop fraîche pour n'être pas âgée de 20 ans tout au plus. Et si elle n'était pas jolie, tu me l'aurais déjà montré. »
Le paravent était très élevé, et malgré sa grande taille, l'amant ne pouvait regarder par-dessus, à moins de jeter à bas tous les chiffons de corilla qui encombraient les chaises. D'ailleurs, depuis qu'il ne pensait plus à s'alarmer de la présence d'un homme, le jeu l'amusait.
« Madame, cria-t-il, si vous êtes vieille et laide, ne dites rien, et je respecte votre asile.
Mais parbleu, si vous êtes jeune et belle, ne vous laissez pas calomnier par la corilla, et dites un mot pour que je force la consigne. »
Consuelo ne répondit rien. « Ah, ma foi !» s'écria le curieux après un moment d'attente. « Je n'en serais pas dupe. Si vous étiez vieille ou mal faite, vous ne vous rendriez pas justice si tranquillement. C'est parce que vous êtes un ange que vous vous moquez de mes doutes. Il faut dans tous les cas que je vous voie. Car, ou vous êtes un prodige de beauté capable d'inspirer des craintes à la belle Corilla elle-même, ou vous êtes une personne assez spirituelle pour avouer votre laideur. » Et je serais bien aise de voir, pour la première fois de ma vie, une laide femme sans prétention. » Il prit le bras de Corilla avec deux doigts seulement et la fit plier comme un brin de paille. Elle jeta un grand cri, prétendit qu'il l'avait meurtrie, blessée. Il n'en tint compte, et, ouvrant la feuille du paravent, il montra au regard de Consuelo l'horrible figure du baron François de Trinque.
Un habit de ville des plus riches et des plus galants avait remplacé son sauvage costume de guerre. Mais à sa taille gigantesque et aux larges taches d'un noir rougeâtre qui sillonnait son visage basané, il était difficile de méconnaître un seul instant l'intrépide et impitoyable chef des Pandours. Consuelo ne put retenir un cri d'effroi et retomba sur sa chaise en pâlissant.
« N'ayez pas peur de moi, madame, »
dit le baron en mettant un genou en terre. « Et pardonnez-moi une témérité dont il m'est impossible, en vous regardant, de me repentir comme je le devrais. Mais laissez-moi croire que c'était par pitié pour moi, sachant bien que je ne pourrais vous voir sans vous adorer, que vous refusiez de vous montrer. Ne me donnez pas ce chagrin de penser que je vous fais peur. Je suis assez laid, j'en conviens, mais si la guerre a fait d'un assez joli garçon une espèce de monstre, soyez sûr qu'elle ne m'a pas rendu plus méchant pour cela. »
Plus méchant? Cela était sans doute impossible, répondit Consuelo en lui tournant le dos.
Oui, répondit le baron. Vous êtes une enfant bien sauvage, et votre nourrice vous aura fait des contes de vampires sur moi, comme les vieilles femmes de ce pays-ci n'y manquent pas. Mais les jeunes me rendent plus de justice. Elles savent que si je suis un peu rude dans mes façons avec les ennemis de la patrie, je suis très facile à apprivoiser quand elles veulent s'en donner la peine. »
Et, se penchant vers le miroir où Consuelo feignait de se regarder, il attacha sur elle ce regard à la fois voluptueux et féroce dont la corilla avait subi la brutale fascination. Consuelo vit qu'elle ne pouvait se débarrasser de lui qu'en l'irritant.
« Monsieur le baron, lui dit-elle, ce n'est pas de la peur que vous m'inspirez. C'est du dégoût et de l'aversion. Vous aimez à tuer, et moi je ne crains pas la mort, mais je hais les âmes sanguinaires, et je connais la vôtre. J'arrive de Bohême, et j'y ai trouvé la trace de vos pas. »
Le baron changea de visage, et dit en haussant les épaules et en se tournant vers la corilla.
« Quelle diablesse est-ce là ? La baronne de Lestoc, qui m'a tiré un coup de pistolet à bout portant dans une rencontre, n'était pas plus enragée contre moi. Aurais-je écrasé son amant par mégarde en galopant sur quelques buissons? Allons, ma belle, calmez-vous, je voulais plaisanter avec vous. Si vous êtes d'humeur revêche, je vous salue. Aussi bien je mérite cela pour m'être laissé distraire un moment de ma divine corilla. »
Votre divine corilla, répondit cette dernière, se soucie fort peu de vos distractions et vous prie de vous retirer, car dans un instant le directeur va venir faire sa tournée, et à moins que vous ne vouliez faire un esclandre.
Je m'en vais, dit le baron. Je ne veux pas t'affliger et priver le public de la fraîcheur de tes accents en te faisant verser quelques larmes. Je t'attendrai avec ma voiture à la sortie du théâtre après la représentation. C'est entendu?
Il l'embrassa, bon gré mal gré, devant Consuelo, et se retira. Aussitôt, la corilla se jeta au cou de sa compagne pour la remercier d'avoir si bien repoussé les fadeurs du baron. Consuelo détourna la tête. La belle corilla, toute souillée du baiser de cet homme, lui causait presque le même dégoût que lui.
« Comment pouvez-vous être jalouse d'un être aussi repoussant ? » lui dit-elle.
« D'une garelle, tu ne t'y connais pas, » répondit Corilla en souriant.
« Le baron plaît à des femmes plus haut placées et soi-disant plus vertueuses que nous. Sa taille est superbe et son visage, bien que gâté par des cicatrices, a des agréments auxquels tu ne résisterais pas s'il se mettait en tête de te le faire trouver beau.
« Ah, Corilla, ce n'est pas son visage qui me répugne le plus. » Son âme est plus hideuse encore. Tu ne sais donc pas que son cœur est celui d'un tigre. »
Et voilà ce qui m'a tourné la tête, répondit lestement la corilla. Entendre les fadeurs de tous ces efféminés qui vous harcèlent, belle merveille en vérité. Mais enchaîner un tigre, dominer un lion des forêts, le conduire en laisse, faire soupirer, pleurer, rugir et trembler celui dont le regard met en fuite des armées entières et dont un coup de sabre fait voler la tête d'un bœuf comme celle d'un pavot, c'est un plaisir plus âpre que tous ceux que j'ai connus. Anzoletto avait bien un peu de cela. je l'aimais pour sa méchanceté. Mais le baron est pire. L'autre était capable de battre sa maîtresse, celui-ci est capable de la tuer. Oh, je l'aime davantage.
Pauvre Corilla, dit Consuelo en laissant tomber sur elle le regard d'une profonde pitié.
Tu me plains de cet amour, et tu as raison. Mais tu aurais encore plus de raison si tu me l'enviais. J'aime mieux que tu m'en plaignes, après tout, que de me le disputer.
Sois tranquille, dit Consuelo.
Signora, si va comincia, cria l'avertisseur de la porte.
Commencez,
cria une voix de stentor à l'étage supérieur, occupé par les salles des choristes.
Commencez,
répéta une autre voix lugubre et sourde au bas de l'escalier qui donnait sur le fond du théâtre. Et les dernières syllabes, passant comme un écho affaibli de coulisse en coulisse, aboutirent en mourant jusqu'au souffleur qui le traduisit au chef d'orchestre en frappant trois coups sur le plancher. Celui-ci frappa à son tour de son archet sur le pupitre, et après cet instant de recueillement et de palpitation qui précède le début de l'ouverture, la symphonie prit son élan et imposa silence dans les loges comme au parterre. Dès le premier acte de Zenobi, Consuelo produisit cet effet complet, irrésistible, que Hinde lui avait prédit la veille. Les plus grands talents n'ont pas tous les jours un triomphe infaillible sur la scène. Même en supposant que leur force n'est pas un instant de défaillance, tous les rôles, toutes les situations ne sont pas propres au développement de leurs facultés les plus brillantes. C'était la première fois que Consuelo rencontrait ce rôle et ces situations où elle pouvait être elle-même et se manifester dans sa candeur, dans sa force, dans sa tendresse et dans sa pureté, sans faire un travail d'art et d'attention pour s'identifier à un personnage inconnu. Elle put oublier ce travail terrible, s'abandonner à l'émotion du moment, s'inspirer tout à coup de mouvements pathétiques et profonds qu'elle n'avait pas eu le temps d'étudier et qui lui furent révélés par le magnétisme d'un auditoire sympathique. Elle y trouva un plaisir indicible. Et, ainsi qu'elle l'avait éprouvé en moins à la répétition, ainsi qu'elle l'avait sincèrement exprimé à Joseph, ce ne fut pas le triomphe que lui décerna le public qui l'enivra de joie, mais bien le bonheur de réussir à se manifester, la certitude victorieuse d'avoir atteint dans son art un moment d'idéal. Jusque-là, elle s'était toujours demandé avec inquiétude si elle n'eût pas pu tirer meilleur parti de ses moyens et de son rôle. Cette fois, elle sentit qu'elle avait révélé toute sa puissance. Et, presque sourde aux clameurs de la foule, elle s'applaudit elle-même dans le secret de sa conscience. Après le premier acte, elle resta dans la coulisse pour écouter l'intermède où Corilla était charmante et pour l'encourager par des éloges sincères. Mais après le second acte, elle sentit le besoin de prendre un instant de repos et remonta dans la loge. Le Porpora, occupé ailleurs, ne l'y suivit pas, et Joseph, qui, par un secret effet de la protection impériale, avait été subitement admis à faire une partie de violon dans l'orchestre, resta à son poste comme on peut croire. Consuelo entra donc seule dans la loge de Corilla, dont cette dernière venait de lui remettre la clé, y prit un verre d'eau et se jeta pour un instant sur le sofa. Mais tout à coup, le souvenir du pandour Trinck lui causa une sorte de frayeur, et elle courut fermer la porte sur elle à double tour. Il n'y avait pourtant guère d'apparence qu'il vînt la tourmenter. Il avait été se mettre dans la salle au lever du rideau, et Consuelo l'avait distingué à un balcon, parmi ses plus fanatiques admirateurs. Il était passionné pour la musique. Né et élevé en Italie, il en parlait la langue aussi harmonieusement qu'un Italien véritable, chantait agréablement, et, s'il ne fût né avec d'autres ressources, il eût pu faire fortune au théâtre, à ce que prétendent ses biographes. Mais quelle terreur s'empara de Consuelo lorsqu'en retournant au sofa,
elle vit le fatal paravent s'agiter et s'entr'ouvrir pour faire apparaître le maudit Pandour. Elle s'élança vers la porte, mais Trank y fut avant elle, et s'appuyant le dos contre la serrure, « Un peu de calme, ma charmante !» lui dit-il avec un affreux sourire. « Puisque vous partagez cette loge avec la Corilla, il faut bien vous accoutumer à y rencontrer l'amant de cette belle, et vous ne pouviez pas ignorer qu'il avait une double clé dans sa poche. Vous êtes venu vous jeter dans la caverne du lion. Oh, ne songez pas à crier, personne ne viendrait. On connaît la présence d'esprit de Trunk, la force de son poignet, et le peu de cas qu'il fait de la vie des sots. Si on le laisse pénétrer ici, en dépit de la consigne impériale, c'est qu'apparemment il n'y a pas, parmi tous vos baladins, un homme assez hardi pour le regarder en face. Voyons, qu'avez-vous à pâlir et à trembler? Êtes-vous donc si peu sûr de vous que vous ne puissiez écouter trois paroles sans perdre la tête? Ou bien croyez-vous que je sois homme à vous violenter et à vous faire outrage? Ce sont des contes de vieilles femmes qu'on vous a fait là, mon enfant. Trunk n'est pas si méchant qu'on le dit, et c'est pour vous en convaincre qu'il veut causer un instant avec vous. Monsieur, je ne vous écouterai point que vous n'ayez ouvert cette porte, répondit Consuelo en s'armant de résolution. À ce prix, je consentirai à vous laisser parler. Mais si vous persistez à me renfermer avec vous ici, je croirai que cet homme si brave et si fort doute de lui-même et craint d'affronter mes camarades les baladins. « Ah, vous avez raison, » dit Trunk en ouvrant la porte toute grande. « Et si vous ne craignez pas de vous enrhumer, j'aime mieux avoir de l'air que d'étouffer dans le musc dont la corille a rempli cette petite chambre. Vous me rendez service. » En parlant ainsi, il revint s'emparer des deux mains de Consuelo, la força de s'asseoir sur le sofa et se mit à ses genoux sans quitter ses mains qu'elle ne pouvait lui disputer sans entamer une lutte puérile, funeste peut-être à son honneur. Car le baron semblait attendre et provoquer la résistance qui réveillait ses instincts violents et lui faisait perdre tout scrupule et tout respect. Consuelo le comprit et se résigna à la honte d'une transaction douteuse. Mais une larme qu'elle ne put retenir tomba lentement sur sa joue pâle et morne. Le baron la vit, et au lieu d'être attendri et désarmé, il laissa une joie ardente et cruelle jaillir de ses paupières sanglantes, éraillées et mises à vif par la brûlure. « Vous êtes bien injuste pour moi, » lui dit-il avec une voix dont la douceur caressante trahissait une satisfaction hypocrite. « Vous me haïssez sans me connaître, et vous ne voulez pas écouter ma justification. Moi, je ne puis me résigner sottement à votre aversion. » Il y a une heure, je ne m'en souciais pas. Mais depuis que j'ai entendu la divine Porporina, depuis que je l'adore, je sens qu'il faut vivre pour elle ou mourir de sa main. « Épargnez-vous cette ridicule comédie !» dit Consuelo indigné. « Comédie ! » interrompit le baron. « Tenez ! » dit-il en tirant de sa poche un pistolet chargé qu'il arma lui-même et qu'il lui présenta. Vous allez garder cette arme dans une de vos belles mains, et si je vous offense malgré moi en vous parlant, si je continue à vous être odieux, tuez-moi si bon vous semble. Quant à cette autre main, je suis résolu à la retenir tant que vous ne m'aurez pas permis de la baiser. Mais je ne veux devoir cette faveur qu'à votre bonté, et vous me verrez la demander et l'attendre patiemment sous le canon de cette arme meurtrière, que vous pouvez tourner vers moi quand mon obsession vous deviendra insupportable. » En effet, Trunk mit le pistolet dans la main droite de Consuelo et lui retint de force la main gauche, en demeurant à ses genoux avec une confiance de fatuité incomparable. Consuelo se sentit bien forte dès cet instant, et, plaçant le pistolet de manière à s'en servir au premier danger, elle lui dit en souriant, « Vous pouvez parler, je vous écoute. » Comme elle disait cela, il lui sembla entendre des pas dans le corridor et voir l'ombre d'une personne qui se dessinait déjà devant la porte. Mais cette ombre s'effaça aussitôt, soit que la personne eût retourné sur ses pas, soit que cette frayeur de Consuelo fût imaginaire. Dans la situation où elle se trouvait, et n'ayant plus à craindre qu'un scandale, l'approche de toute personne indifférente ou secourable lui faisait plus de peur que d'envie. Si elle gardait le silence, le baron, surpris à ses genoux, avec la porte ouverte, ne pouvait manquer de paraître effrontément en bonne fortune auprès d'elle. Si elle appelait, si elle criait au secours, le baron tuerait certainement le premier qui entrerait. 50 traits de ce genre ornaient le mémorial de sa vie privée, et les victimes de ses passions n'en passaient pas pour moins faibles ou moins souillées. Dans cette affreuse alternative, Consuelo ne pouvait que désirer une prompte explication et espérer de son propre courage qu'elle mettrait Tranque à la raison, sans qu'aucun témoin pût commenter et interpréter à son gré cette scène bizarre. Il comprit une partie de sa pensée et alla pousser la porte, mais sans la fermer entièrement. « Vraiment, madame, lui dit-il en revenant vers elle, ce serait folie de vous exposer à la méchanceté des passants, et il faut que cette querelle se termine entre nous deux seulement. » « Écoutez-moi, je vois vos craintes et je comprends les scrupules de votre amitié pour Corilla. Votre honneur, votre réputation de loyauté me sont plus chers encore que les moments précieux où je vous contemple sans témoin. Je sais bien que cette panthère, dont j'étais épris encore il y a une heure, vous accuserait de trahison si elle me surprenait à vos pieds. Elle n'aura pas ce plaisir, les moments sont comptés. Elle en a encore pour 10 minutes à divertir le public par ses minauderies. J'ai donc le temps de vous dire que si je l'ai aimée, je ne m'en souviens déjà pas plus que de la première pomme que j'ai cueillie. Ainsi, ne craignez pas de lui enlever un cœur qui ne lui appartient plus, et d'où rien ne pourra effacer désormais votre image. Vous seule, madame, régnez sur moi et pouvez disposer de ma vie. Pourquoi hésiteriez-vous ? Vous avez, dit-on, un amant. Je vous en débarrasserai avec une chiquenaude. Vous êtes gardé à vue par un vieux tuteur sombre et jaloux. Je vous enlèverai à sa barbe. Vous êtes traversé au théâtre par 1000 intrigues. Le public vous adore, il est vrai. Mais le public est un ingrat qui vous abandonnera au premier enrouement que vous aurez. Je suis immensément riche, et je puis faire de vous une princesse, presque une reine, dans une contrée sauvage, mais où je puis vous bâtir en un clin d'œil des palais et des théâtres plus beaux et plus vastes que ceux de la cour de Vienne. S'il vous faut un public, d'un coup de baguette j'en ferai sortir de terre. Un aussi dévoué, aussi soumis, aussi fidèle que celui de Vienne l'est peu. Je ne suis pas beau, je le sais, mais les cicatrices qui ornent mon visage sont plus respectables et plus glorieuses que le fard qui couvre les joues blêmes de vos histrions. Je suis dur à mes esclaves et implacable à mes ennemis, mais je suis doux pour mes bons serviteurs, et ceux que j'aime nagent dans la joie, dans la gloire et dans l'opulence. Enfin, je suis parfois violent, on vous a dit vrai. On n'est pas brave et fort comme je le suis, sans aimer à faire usage de sa puissance, quand la vengeance et l'orgueil vous y convient. Mais une femme pure, timide, douce et charmante comme vous l'êtes, peut dompter ma force, enchaîner ma volonté, et me tenir sous ses pieds comme un enfant. Essayez seulement. Fiez-vous à moi dans le mystère pendant quelque temps, et quand vous me connaîtrez, vous verrez que vous pouvez me remettre le soin de votre avenir et me suivre en esclavonie. Vous souriez, vous trouvez que ce nom ressemble à celui d'esclavage. C'est moi, céleste Porporina, qui serai ton esclave. Regarde-moi, et accoutume-toi à cette laideur que ton amour pourrait embellir. Dis un mot, et tu verras que les yeux rouges de Trinque l'Autrichien peuvent verser des larmes de tendresse et de joie aussi bien que les beaux yeux de Trinque le Prussien, ce cher cousin que j'aime, quoique nous ayons combattu dans des rangs ennemis, et qui ne t'a pas été indifférent à ce qu'on assure. Mais ce Trinque est un enfant, et celui qui te parle, jeune encore, il n'a que 34 ans, quoique son visage sillonné de la foudre en accuse le double. A passé l'âge des caprices, et t'assurera de longues années de bonheur. Parle, parle, dis oui, et tu verras que la passion peut me transfigurer et faire un Jupiter rayonnant de trinque à la gueule brûlée. Tu ne me réponds pas. Une touchante pudeur te fait hésiter encore? Eh bien, ne dis rien. Laisse-moi baiser ta main, et je m'éloigne plein de confiance et de bonheur. Vois si je suis un brutal et un tigre tel qu'on m'a dépeint. Je ne te demande qu'une innocente faveur, et je l'implore à genoux, moi qui, de mon souffle, pouvais te terrasser et connaître encore, malgré ta haine, un bonheur dont les dieux eussent été jaloux. Consuelo examinait avec surprise cet homme affreux qui séduisait tant de femmes. Elle étudiait cette fascination qui, en effet, eût été irrésistible en dépit de la laideur si c'eût été la figure d'un homme de bien, animé de la passion d'un homme de cœur. Mais ce n'était que la laideur d'un voluptueux effréné, et sa passion n'était que le donquichottisme d'une présomption impertinente. « Avez-vous tout dit, monsieur le baron ?» lui demanda-t-elle avec tranquillité. Mais tout à coup, elle rougit et pâlit en regardant une poignée de gros brillants, de perles énormes et de rubis d'un grand prix que le despote slave venait de jeter sur ses genoux. Elle se leva brusquement et fit rouler par terre toutes ces pierreries que la corilla devait ramasser. « Trinque !» lui dit-elle avec la force du mépris et de l'indignation. « Tu es le dernier des lâches avec toute ta bravoure. Tu n'as jamais combattu que des agneaux et des biches, et tu les as égorgés sans pitié. Si un homme véritable s'était retourné contre toi, tu te serais enfui comme un loup féroce et poltron que tu es. Tes glorieuses cicatrices, je sais que tu les as reçues dans une cave, où tu cherchais l'or des vaincus au milieu des cadavres. Tes palais et ton petit royaume, c'est le sang d'un noble peuple auquel le despotisme impose un compatriote tel que toi qui les a payés. C'est le denier arraché à la veuve et à l'orphelin. C'est l'or de la trahison. C'est le pillage des églises où tu feins de te prosterner et de réciter le chapelet. Car tu es cagot pour compléter toutes tes grandes qualités. Ton cousin, Trinque le Prussien, que tu chéris si tendrement, tu l'as trahi et tu as voulu le faire assassiner. Ces femmes dont tu as fait la gloire et le bonheur, tu les avais violées après avoir égorgé leurs époux et leurs pères. Cette tendresse que tu viens d'improviser pour moi, c'est le caprice d'un libertin blasé. Cette soumission chevaleresque qui t'a fait remettre ta vie dans mes mains, c'est la vanité d'un sot qui se croit irrésistible. Et cette légère faveur que tu me demandes, ce serait une souillure dont je ne pourrais me laver que par le suicide. Voilà mon dernier mot, Pandour à la gueule brûlée. Ôte-toi de mes yeux. Fuis, car si tu ne laisses ma main, que depuis un quart d'heure tu glaces dans la tienne, je vais purger la terre d'un scélérat en te faisant sauter la tête. « C'est là ton dernier mot, fille d'enfer ?» s'écria Trinque. « Eh bien, malheur à toi. Le pistolet que je dédaigne de faire sauter de ta main tremblante n'est chargé que de poudre. Une petite brûlure de plus ou de moins ne fait pas grand-peur à celui qui est à l'épreuve du feu. Tire ce pistolet, fais du bruit, c'est tout ce que je désire. Je serai content d'avoir des témoins de ma victoire. Car maintenant, rien ne peut te soustraire à mes embrassements. » Et tu as allumé en moi, par ta folie, des feux que tu eusses pu contenir avec un peu de prudence. » En parlant ainsi, Trinque saisit Consuelo dans ses bras, mais au même instant la porte s'ouvrit. Un homme, dont la figure était entièrement masquée par un crêpe noir noué derrière la tête, étendit la main sur le pandour, le fit plier et osciller comme un roseau battu par le vent, et le coucha rudement par terre. Ce fut l'affaire de quelques secondes. Trinque, étourdi d'abord, se releva, et, les yeux hagards, la bouche écumante, l'épée à la main, s'élança vers son ennemi qui gagnait la porte et semblait fuir. Consuelo s'élança aussi sur le seuil, croyant reconnaître, dans cet homme déguisé, la taille élevée et le bras robuste du comte Albert. Elle le vit reculer jusqu'au bout du corridor, où un escalier tournant fort rapide descendait vers la rue. Là, il s'arrêta, attendit Trinque, se baissa rapidement pendant que l'épée du baron allait frapper la muraille, et, le prenant à bras le corps, le précipita par-dessus ses épaules, la tête la première, dans l'escalier. Consuelo entendit rouler le géant. Elle voulut courir vers son libérateur en l'appelant Albert. Mais il avait disparu avant qu'elle eût eu la force de faire trois pas. Un affreux silence régnait sur l'escalier. « Signora, cinque minuti !» lui dit d'un air paterne l'avertisseur en débusquant par l'escalier du théâtre qui aboutissait au même palier. « Comment cette porte se trouve-t-elle ouverte » ajouta-t-il en regardant la porte de l'escalier où Trinque avait été précipité. « Vraiment, votre seigneurie courait risque de s'enrhumer dans ce corridor !» Il tira la porte, qu'il ferma à clé, suivant sa consigne, et Consuelo, plus morte que vive, rentra dans la loge, jeta par la fenêtre le pistolet qui était resté sous le sofa, repoussa du pied sous les meubles les pierreries de Trinque qui brillaient sur le tapis, et se rendit sur le théâtre, où elle trouva Corilla encore toute rouge et tout essoufflée du triomphe qu'elle venait d'obtenir dans l'intermède.